Merci beaucoup de l'invitation. Je vais essayer de parler pendant environ 45 minutes et vous laisser la place à des questions après. Donc, je viens de l'université de Caen. Je suis professeur de neuropsychologie. Alors, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que je suis médecin. Je ne suis pas médecin. J'ai fait des études de psychologie, un doctorat de psychologie, et je me suis spécialisé en neuropsychologie. Ce qui veut dire que la neuropsychologie, ça correspond à une sous-discipline de la psychologie, mais pas que, qui s'intéresse aux conséquences sur le comportement des maladies du cerveau. Et en fait, ça va bien au-delà de cela aujourd'hui, puisque pour parler de mon unité de recherche que j'ai la chance de pouvoir diriger donc depuis 2022, donc avec une collègue, cette unité de recherche qui travaille sur la mémoire humaine et ses troubles, qui existe depuis 2002, qui a été créée par Francis Eustache et dont on a la chance effectivement de reprendre le flambeau. Donc, dans cette unité de recherche, depuis sa création, il y a des travaux utilisant les supports artistiques et en particulier la musique que l'on mène pour mieux comprendre comment fonctionne la mémoire normale, mais aussi comment on peut venir en aide aux patients qui ont des troubles de la mémoire grâce à des supports artistiques et grâce à la musique, ce dont je vais parler un petit peu quand même aujourd'hui. Mais je disais que la neuropsychologie, c'était pas que les maladies du cerveau. Aujourd'hui, pour vous donner juste une illustration de quelque chose dont je ne vais pas parler, depuis 2016, dans l'unité de recherche, on accompagne plus de 200 participants qui ont été exposés aux attentats du 13 novembre. Ces personnes viennent de la région parisienne, pour la plupart. Donc ils viennent à Caen, ils ont un entretien autour de leur mémoire individuelle de cette soirée d'attentat du 13 novembre, et ils passent des tests cliniques, ils passent des tests cognitifs de mémoire, des traitements des émotions, et ils ont de la neuroimagerie. Ces personnes qui ont été exposées cette attaque terroriste, à peu près la moitié d'entre elles, elles ont été vues par les collègues de l'unité à partir de 2016, eh bien, la moitié d'entre elles avaient un syndrome de stress post-traumatique. Ce qui est assez exceptionnel dans cette cohorte, c'est déjà de pouvoir la suivre aussi longtemps. Vous voyez que là, on ne parle pas du tout de maladie neurologique, on parle de santé mentale, de l'impact en fait d'un stress fort, d'un traumatisme sur notre fonctionnement psychologique et physiologique. Et si je fais le lien avec ma thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire la musique et les bénéfices potentiels de la musique sur notre cerveau et aussi sur la santé, cette question des bénéfices de la musique sur la santé, elle n'était pas si évidente, elle n'était pas évidente pour ces participants, puisqu'on leur a proposé des questionnaires sur leurs pratiques artistiques et culturelles. Or, il se trouve que la grande majorité de ces personnes étaient au Bataclan pendant un concert de musique. Le profil de ces personnes et pas, en fin de compte, le profil de la population française tout venant. Beaucoup travaillaient dans le secteur des médias, dans le secteur artistique, beaucoup sont musiciens. On a une surreprésentation de musiciens dans cette population, de manière, je dirais, un peu inattendue, mais qui n'est pas inattendue. C'est-à-dire, si vous vous intéressez, évidemment, à l'effet d'un trauma sur la mémoire et sur la santé, la question effectivement de la musique a priori paraît un petit peu anecdotique. Donc il y a beaucoup de littérature sur le fait que la musique pourrait être intéressante pour accompagner les personnes qui ont un syndrome de stress post-traumatique. Il y a notamment de la littérature américaine sur l'accompagnement des GI, des militaires qui sont revenus d'Afghanistan, d'Irak, etc. et qui avait un syndrome de stress post-traumatique. Il y avait déjà des travaux donc pour les vétérans de guerre du Vietnam aux États-Unis et qui ont pu être accompagnés dans des ateliers utilisant la musique et qui montraient beaucoup de bénéfices. Mais la question qu'on avait là spécifiquement, c'est comment c'est possible quand on est musicien ? Et quand on est musicien, c'est pas par hasard. Quand on est musicien, c'est parce que la musique représente pour vous quelque chose qui vous nourrit, qui représente une partie de votre identité, qui représente quelque chose qui vous a accompagné toute la vie, qui vous accompagne, qui vous aide même, et ça faisait partie des questions qu'on posait, donc dans ce questionnaire, est-ce que la musique vous a permis de passer des moments difficiles de votre vie ? Et comment la musique peut continuer à accompagner quelqu'un qui est musicien alors même que la musique le ramène systématiquement à un trauma. À un trauma puisqu'ils ont subi ce traumatisme au moment d'un concert de musique. Alors c'est une situation très particulière et en l'occurrence, ce qui ressort de ça, c'est qu'on a une doctorante là qui a soutenu en décembre dernier, qui a commencé donc à publier les résultats de ses travaux sur cette thématique et qui montre que, de manière intéressante, évidemment, les personnes qui ont un syndrome de stress post-traumatique, un an après les attentats, beaucoup ont arrêté les activités artistiques, la musique, c'était trop douloureux. Il y a un arrêt, à un moment donné, c'est pas possible. Et pourtant, ils y reviennent. 2 ans plus tard, ils y reviennent et la musique recommence à être pour eux quelque chose qu'ils investissent comme un média qui va les accompagner. C'est un média et un ami qui va les accompagner tout au long de leur existence. Ça ne veut pas dire que la musique va leur permettre d'abolir donc les conséquences de ce trauma de manière un peu magique, mais ça y contribue. Sur ma diapositive, vous avez deux photographies qui illustrent en fait la dualité des travaux que l'on mène dans cette unité de recherche autour de la question des liens entre musique et mémoire en particulier. À gauche, on voit donc Mathilde Groussard qui travaille donc avec moi, qui est maître de conférence donc à l'Université de Caen et avec laquelle on a réalisé donc des travaux de neuroimagerie sur la musique, des travaux un peu fondamentaux, notamment la comparaison de l'architecture cérébrale entre le cerveau des musiciens et des non-musiciens. Et puis, le pendant de ces travaux, c'est plutôt l'application clinique et d'essayer de mieux comprendre comment on peut utiliser ce support qu'est la musique pour venir en aide à des patients qui ont des maladies de la mémoire. Et en particulier, on a travaillé chez des patients qui ont une maladie de type Alzheimer. Alors, on va démarrer avec cette question. Comment la musique pourrait soigner. Est-ce que la musique peut être thérapeutique ? On entend tous parler de musicothérapie. Vous savez que la musicothérapie, comme l'art-thérapie, c'est quelque chose qui a émergé depuis longtemps, donc qui est proposé, alors qui s'est formalisé à la fin du 19e, au cours du 20e siècle, mais qui, jusqu'à la fin, en fin de compte, du 20e siècle, en particulier pour la musicothérapie, était une approche plutôt utilisant dans une perspective, en fin de compte, de médiation, pour susciter la créativité, mais de médiation dans une approche plutôt psychodynamique ou psychanalytique, mais pas du tout dans une approche neuropsychologique. Et puis, les travaux qui ont émergé dans les années 90, avec l'apport de la neuroimagerie cérébrale au cours des années 90, a permis de donner des arguments sur, pas seulement d'observer qu'on pouvait avoir des bénéfices, d'avoir des études observationnelles, mais aussi de mieux comprendre pourquoi ça marche. La question aujourd'hui, évidemment, c'est pas de dire que ça marche, mais d'expliquer comment ça marche. Mais expliquer comment ça marche, c'est pas si simple. Si je vous dis comment la musique pourrait soigner, on peut avoir plusieurs approches. Premièrement, on peut avoir une réponse toute simple en disant que dans des ateliers de musicothérapie ou lorsqu'on utilise la musique dans des ateliers auprès de patients, je reste sur l'exemple par exemple des patients Alzheimer, si ça se trouve, la musique, c'est pas ça qui fait l'effet, c'est pas ça qui est bénéfique. Ce qui est bénéfique, c'est qu'on s'occupe de ces patients, et le bénéfice majeur, c'est d'abord la qualité de l'intervenant, est lié à la qualité de l'intervenant, et c'est pas faux. Il y a différents travaux qui montrent bien que si vous comparez les bénéfices respectifs d'ateliers qui peuvent être proposés dans des EHPAD, donc auprès de ce type de patients, il peut y avoir des bénéfices qui peuvent être tout aussi intéressants, tout aussi forts, d'un atelier cuisine par rapport à un atelier musique, par rapport à un atelier d'ortithérapie ou de médiation animale. Il y a beaucoup aujourd'hui de travaux sur l'intérêt de la médiation animale, d'utiliser des animaux pour diminuer le stress et augmenter donc le bien-être et diminuer les troubles comportementaux chez ces patients, et ça marche très très bien. Donc, on peut avoir une réponse qui est toute simple, c'est de dire, en fait, le support importe peu, ce qui compte, c'est la qualité de l'intervenant. C'est pas faux. Alors après, est-ce qu'on peut aller au-delà et se dire, malgré tout, est-ce que la musique, quand même, a pas quelques bénéfices intrinsèquement en elle-même? Est-ce qu'elle fait pas quelque chose par elle-même? Alors après, une fois qu'on a dit ça, il faut distinguer deux contextes. Le fait de faire de la musique ou de faire de la musique, de pratiquer la musique, et le fait d'écouter de la musique. Et dans la littérature, il y a parfois des confusions entre les travaux, les résultats qui montrent l'impact de l'apprentissage de la musique, l'impact en fait de la pratique de la musique sur le cerveau, sur le corps, sur la cognition, et ce que l'on va pouvoir faire comme hypothèse, des bénéfices en fin de compte de la musique chez des patients pour qui on propose simplement des séances où ils écoutent de la musique, et ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas transposer, pour dire les choses autrement, c'est très difficile de transposer ce qui est observé chez des gens qui ont appris la musique, des musiciens, etc., ce qui se passe dans le cerveau des musiciens, et de le transposer à des ateliers de simple écoute de la musique. Donc ça, c'est un premier point. On va quand même parler un petit peu des musiciens et de ce qui a été observé, on va dire ces 30 dernières années, et pourquoi les musiciens ont été et sont encore une population d'experts extrêmement intéressants pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et en particulier les phénomènes de neuroplasticité. Pour étudier comment le cerveau va réorganiser son activité, son fonctionnement, et se réorganiser même dans sa structure. Il y avait des travaux qui s'intéressaient à des populations d'experts, c'est-à-dire des populations qui vont développer une expertise parce que ils vont s'entraîner de manière très très importante sur une activité. Vous avez tous entendu parler de travaux en neurosciences, et sur les effets aussi sur le cerveau, des joueurs d'échecs et des grands maîtres d'échecs. Donc il y avait tout un tas de travaux de la littérature sur ce groupe d'experts. Il y avait des travaux de la littérature aussi sur les gens qui avaient une expertise dans le domaine, par exemple, du jonglage et d'autres catégories d'experts. Et puis, les musiciens, ça s'est avéré être une population extrêmement intéressante parce que quand on pratique la musique, on va à la fois avoir, des effets qui sont des effets liés à le fait d'écouter de la musique, bien évidemment, puisqu'il faut d'abord l'écouter, la musique, avant de la produire. Mais en fin de compte, un cumul d'effets liés au traitement perceptif, mais aussi à la motricité qui est donc sollicitée pour maîtriser un instrument de musique, je vais y revenir. Donc il y a de multiples couches qui sont stimulés, sollicités en termes de mécanismes chez les musiciens. C'est ça qui fait l'intérêt, en fin de compte, de cette population. Donc, on a deux types de neuroplasticité. Une neuroplasticité dite fonctionnelle, c'est comment le cerveau change son activité quand je deviens expert. Et une neuroplasticité dite structurale, qui a été découverte plus récemment, au décours des années 2000, c'est la manière dont votre cerveau va se réorganiser en termes architectural, c'est-à-dire, là, les index, ça va être la densité de neurones, la densité de substances grises, l'épaisseur corticale, la densité de fibres de substances blanches. Alors, je donne quelques exemples. Voici un premier exemple de la manière dont réagit le cerveau d'experts par rapport à non-experts. Qu'est-ce qu'on peut faire comme hypothèse de ce qui va se passer dans le cerveau d'un expert par rapport à des non-experts? La première hypothèse qu'on peut faire, c'est qu'un expert devrait mobiliser des régions cérébrales plus nombreuses éventuellement, en tout cas différemment, du non-expert. Ici, cette petite étude, elle est amusante, elle est toute bête. C'est qu'on montre aux participants des petits films très courts, hein, donc vous voyez en haut les images, deux types, en fin de compte, de petites séquences vidéo. Une séquence vidéo où on voit, en fin de compte, les mains d'une pianiste en train de jouer un morceau de musique, mais il n'y a pas de son du tout. Ce sont des films muets. Donc, on voit simplement des mains d'une pianiste en train d'enfoncer des touches dans un piano. Mais il n'y a pas de son. Et puis, il y a une séquence vidéo où on voit juste, en fin de compte, les mains de la pianiste qui se baladent au-dessus des touches, mais elle n'enfonce aucune touche. Et en fait, ce que font les auteurs ici, c'est qu'ils utilisent la séquence vidéo où on voit juste les mains se balader au-dessus du clavier comme tâche de référence de l'activité de cerveau de base. Et ils regardent qu'est-ce qui est plus activé quand on voit, en fin de compte, la pianiste enfoncer des touches. Pour les gens qui n'ont jamais fait de musique, il se passe que, il y a encore un peu d'activité dans les régions visuelles, mais pas grand-chose entre les deux situations. Pour les gens qui ont quelques années de pratique de piano, il y a déjà un petit peu plus de choses, et notamment, on voit de l'activité dans les régions motrices qui représentent les différents doigts des mains de ces personnes. Et puis, ce qui est surtout intéressant, quand on regarde les musiciens qu'on va qualifier d'experts, qui ont plus d'une dizaine d'années de pratique, il se passe quelque chose dans leur cerveau, c'est qu'ils ont de l'activité dans les régions auditives. Autrement dit, eux, ils entendent le son des notes et ils entendent la mélodie jouée par la pianiste. Donc, ils sont capables, effectivement, de simuler auditivement ce que la pianiste peut faire. Je vais y revenir justement sur cet aspect de simulation dans un instant, mais ce qui montre que simplement en imaginant les sons, les mélodies jouées par la pianiste, on a une activation des régions auditives comme si, en fait, ils entendaient de l'extérieur la mélodie jouée par cette pianiste. Donc ça, c'est une possibilité. C'est l'expert, il présente une activité cérébrale supérieure ou d'autres régions que le non-expert. Mais en fait, dans beaucoup de cas, on peut aussi avoir un autre type d'effet sur la neuroplasticité fonctionnelle. C'est le fait que l'expert va avoir une activité cérébrale plus restreinte, plus spécialisée. Et le non-expert, l'amateur, va avoir une activité cérébrale plus diffuse et plus large. Et ça, c'est assez, récurrent. C'est-à-dire que si vous regardez ici avec des techniques qu'on appelle métaboliques, c'est-à-dire ce qu'on regarde, c'est la consommation par le cerveau d'oxygène ou de glucose, qui représente l'activité des neurones plus important dans certaines régions, parce que dès que vous faites travailler votre cerveau dans certaines régions, tout de suite, votre cerveau, c'est l'organe de votre corps qui consomme le plus d'énergie, il a tout de suite besoin, pour continuer son activité, de nutriments que sont l'oxygène et le glucose. Alors, pas n'importe quel glucose, faut pas juste manger des morceaux de sucre. Évidemment, après, vous risquez d'avoir des petits soucis. Qu'est-ce qu'on observe ici dans le résultat? C'est ce que je viens de dire, c'est que, en fait, à gauche, les amateurs, qu'est-ce qu'on demande ici? On demande, en fin de compte, à des violonistes de jouer les 10 premières mesures d'une sonate de violon de Mozart. Chez les amateurs, on voit beaucoup plus d'activités. Alors, il y a beaucoup d'activités d'un côté, parce que ce sont des violonistes, et donc il y a surtout la main gauche qui pédale par rapport à la main droite. Donc, la main gauche est contrôlée par l'hémisphère droit. Donc, il y a beaucoup d'activités dans l'hémisphère droit. Mais on voit qu'il y a moins d'activités en haut pour les experts. Ça, c'est tout à fait typique. C'est ce qu'on trouve aussi, par exemple, dans le bilinguisme. Si vous regardez ce qui se passe dans le cerveau de personnes qui sont parfaitement bilingues par rapport à des personnes qui sont en apprentissage d'une deuxième langue, mais qui ne sont pas encore parfaitement bilingues, vous avez le même phénomène, c'est-à-dire que la personne qui n'est pas parfaitement bilingue, elle va recruter davantage de régions cérébrales. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de plus d'efforts pour réaliser la tâche, c'est-à-dire elle consomme plus de ressources cérébrales. Hein, elle ne fait pas encore la tâche avec facilité, alors que l'expert est quelqu'un qui peut se permettre de réaliser la même chose en consommant moins d'énergie, en consommant effectivement, en faisant moins d'efforts, et parce qu'il a mobilisé aussi des réseaux cérébraux plus spécialisés. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récurrent qu'on retrouve familièrement dans la différence entre expert et non-expert. Ces différences, elles ne sont pas propres uniquement aux instrumentistes. Pendant longtemps, effectivement, la littérature en neuroimagerie cérébrale était centrée sur les instrumentistes. Alors, bien évidemment, les gens qui apprenaient la musique en conservatoire, parce qu'il fallait avoir, je dirais, une homogénéité de niveau d'expertise. Après, il y a tout le débat, effectivement. Est-ce qu'on a les mêmes effets quand on n'apprend pas le solfège, quand on est autodidacte, quand on a un apprentissage oral, etc. Il y a des différences, bien évidemment, parce que quand on apprend le solfège, ça, c'est une variable qui se surajoute, évidemment, à votre apprentissage et qui peut produire ce qu'on pourrait appeler un effet solfège. Hein, parce que vous apprenez une espèce de langue seconde, hein, d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas surprenant. Donc là, les instrumentistes, c'était vraiment la population principale. Et puis, à chaque fois que je présentais, pendant les premières années, ces travaux, il y avait toujours, en fin de compte, des gens très frustrés qui levaient la main en disant « Mais les chanteurs, alors ?» Alors, les chanteurs, faire jouer d'un instrument de musique dans un scanner ou dans une IRM, c'est pas simple. Parce que si vous avez eu l'occasion de passer un scanner ou une IRM, pas forcément du cerveau d'ailleurs, vous savez que la première consigne qu'on vous donne, c'est « faut pas bouger ». Faut pas parler, faut pas bouger, parce que sinon les images sont floues. Hein. Donc c'était compliqué d'arriver, en fin de compte, demander à des chanteurs de chanter. Hein. On pouvait leur demander d'imaginer chanter, hein, notamment. Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire un peu plus. Et puis, quand on regarde l'architecture cérébrale, alors là, c'est pas forcément évident d'arriver à le visualiser, mais vous allez me croire sur parole. Ici, c'est la différence en fait qui se passe dans l'activité du cerveau. Et dans ce même papier, en fait, il y a des résultats sur l'activité cérébrale et aussi sur l'architecture cérébrale chez des chanteurs de différents niveaux, et notamment des chanteurs d'opéra. Donc très experts par rapport à des chanteurs moins experts. Et on retrouve le même phénomène, et notamment chez les chanteurs experts, on va avoir une mobilisation des régions du cerveau qui sont impliquées dans la coordination des muscles buccopharyngés, autrement dit la langue, etc. Et on voit que la représentation des muscles buccopharyngés dans le cerveau de ces chanteurs augmente, hein, c'est-à-dire les neurones et la région, les aires cérébrales dédiées au contrôle de ces muscles buccopharyngés, en fait, augmentent en représentation spatiale, donc au cours des années d'apprentissage. Alors, je parlais effectivement d'imagerie cérébrale et de faire jouer les musiciens. Pas facile, hein, de faire jouer des musiciens en enregistrant leur cerveau. C'est encore quelque chose de compliqué, hein, je viens de le dire, hein, dans une IRM, dans un scanner, la première des consignes, c'est « faut pas bouger ». Il y a quand même quelques expériences qui ont permis d'arriver à faire jouer du clavier dans une IRM, du violon, etc. Et vous savez que dans une IRM, le principe de l'IRM, c'est que ça crée un gros champ magnétique, hein, et vous avez en fait toute une bobine, ce qui fait que, en fait, il faut que vous puissiez réaliser votre tâche ou faire amener le son sans aucun matériel, donc qui pourrait être magnétique. Et ça, c'est pas simple. Vous savez qu'il y a des contre-indications à l'IRM. Si vous avez un pacemaker, faut pas. Hein, vous avez des structures métalliques parce que vous aviez eu des broches dans le temps, c'était des broches qui étaient magnétiques, ça c'est une contre-indication. Maintenant c'est pareil pour les soins dentaires, en fait il n'y a plus de problème parce que ce sont en fait des alliages qui sont plus magnétiques, mais pendant des années en fait il y a plein de personnes qui ne pouvaient pas passer une IRM simplement parce qu'elles avaient du matériel magnétique dans leur corps. Et c'est pas une plaisanterie, hein. Faut pas passer une IRM quand on a du matériel magnétique, parce que quand l'IRM fonctionne, si vous avez par exemple, c'est les ingénieurs hein, qui lors de portes ouvertes qui montrent ça, c'est quand votre IRM fonctionne et que vous êtes à 5 mètres de l'IRM, vous prenez une grosse chaîne en métal qui pèse une dizaine de kilos, hein, et bien l'IRM fonctionne et là votre chaîne, hop, elle se met en lévitation. C'est comme si vous aviez un gros chien invisible qui vous tire vers l'IRM. Ça peut faire de gros dégâts. Une pièce de monnaie que vous lâchez, schlaf, elle part comme un projectile, comme un projectile vraiment qui s'enfonce de ça dans l'IRM. Hein, si vous aviez oublié une pièce de monnaie dans votre poche. Donc il vaut mieux éviter. Et vous imaginez donc un petit peu le côté gore de l'histoire si on avait donc des morceaux métalliques dans son corps, parce qu'ils partent, évidemment. Sinon, c'est non-invasif, l'IRM. On peut en faire plusieurs. Je vous parlais des personnes au Bataclan tout à l'heure. On a eu quelques soucis avec certains. Les piercings, ça s'enlève, ça, c'est pas trop grave. Mais les tatouages avec des encres dans lesquelles il y a des métaux, et ben ça provoque, surtout s'il y a des tatouages sur le crâne, ça provoque en fin de compte des halos lumineux. C'est joli, hein, mais on ne voit plus le cerveau. Et puis ça peut produire des phénomènes d'échauffement. C'est moins sympa. Donc bon, voilà. Alors, du coup, comment on fait pour regarder le cerveau qui fonctionne d'un musicien? Alors, il y a de plus en plus de possibilités avec des techniques d'imagerie portables qui ne sont pas trop sensibles aux effets de mouvement. Et c'est super sympa, sauf que ce n'est pas hyper précis. Mais je vous montre juste en fait, deux petites vidéos. Donc, ici, une pianiste. Alors. Je voulais juste augmenter le son. Vous voyez, alors, sur la plaquette là, qui est là, vous voyez, en fin de compte, là où l'augmentation de la consommation d'oxygène dans les régions motrices qui coordonnent les mouvements de la main gauche et de la main droite. Et en fonction de la difficulté du morceau qu'elle joue, c'est plus ou moins rouge. Bon, très bien. Alors, la pianiste... On lui demande, dans un deuxième temps, de mettre ses mains sur ses cuisses. Et elle doit imaginer jouer son morceau de musique. Et vous voyez qu'on va retrouver exactement les mêmes activités des régions qui coordonnent les doigts de la main. Elle ne bouge pas, hein, mais elle imagine jouer son morceau. Et ça suffit pour réaugmenter, en fin de compte, l'activité cérébrale de la même manière que elle le jouait vraiment. Donc ça, c'est une illustration qui est intéressante. Tout à l'heure, je montrais l'activation des régions auditives pour les musiciens qui regardaient la petite vidéo. Ça veut dire que votre cerveau, c'est un organe à décoder le monde qui vous entoure, à en prendre connaissance, mais c'est aussi un organe qui vous sert à simuler le monde qui vous entoure. Alors, simuler le monde qui vous entoure, ça veut dire que pour les musiciens, c'est très intéressant parce que ça veut dire que s'ils sont dans le train et qu'ils n'ont rien d'autre à faire, ils peuvent s'imaginer jouer et ils s'entraînent. Ils peuvent imaginer la partition et ils la mémorisent. Ils peuvent lire la partition et ils sont déjà en train de jouer. Donc, la simulation, et vous savez que pour les sportifs de haut niveau, simuler les gestes, etc., c'est déjà, en fin de compte, s'entraîner. C'est déjà, d'une certaine manière... faire les choses par simulation. Alors pour notre cerveau, c'est vrai que c'est plus satisfaisant de faire vraiment que d'imaginer faire, et plus engageant. Mais c'est intéressant quand même cette histoire de simulation. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Pour nous qui travaillons sur la mémoire. Je vous propose une petite expérience de pensée. Imaginons que sur l'estrade monte quelqu'un, un trompettiste. Un trompettiste, très bien, ce trompettiste, il est là, il est devant vous là, vous l'imaginez. Et il va commencer à jouer la mélodie de Petit Papa Noël à la trompette. Tout le monde connaît Petit Papa Noël, j'espère. Et vous imaginez entendre, avec un son de trompette, la mélodie de Petit Papa Noël. Ça peut être un son de trompette à Louis Armstrong, à la Miles Davis, voilà, donc à la Ibrahim Malouf, comme vous voulez. Mais vous entendez Petit Papa Noël jouer à la trompette. Vous n'avez jamais, peut-être, vu un trompettiste jouer Petit Papa Noël à la trompette. Vous n'avez sans doute jamais entendu Petit Papa Noël jouer à la trompette. Mais vous pouvez parfaitement l'imaginer. Vous pouvez parfaitement le simuler, parce que vous savez ce que c'est qu'un son de trompette, vous en avez une référence, et vous savez ce que c'est que la mélodie de Petit Papa Noël. Je peux vous demander de refaire ce travail mental, hein, ce soir, dans votre petit lit douillet, avant de vous endormir, de penser à Petit Papa Noël jouer à la trompette. On en reparle dans 30 ans. Quelle est, en fin de compte, la nature de cette expérience de simulation, c'est-à-dire d'avoir entendu, d'avoir simulé Petit Papa Noël dans votre cerveau. Pour votre cerveau, dans 30 ans, ça représente quoi ? C'est un souvenir de quelque chose que vous avez vécu, réellement, ou pas ? En fait, ça va sensiblement avoir le même statut. Et vous voyez, en fait, tout l'intérêt en fait, de ces questionnements, c'est entre des choses qu'on a imaginées et des choses qui se sont vraiment produites, des fois, quand on les réévoque quelques années plus tard, dans quelle mesure ce sont des vrais souvenirs ou des faux souvenirs, des choses imaginées, des choses simulées, des choses... Mais vous, en toute bonne foi, vous êtes persuadé que vous l'avez bien vécu, cette expérience. Eh bien oui, effectivement, vous l'avez bien vécu. D'accord ? Donc c'est intéressant aussi pour nous par rapport à ce débat sur la réalité des souvenirs, etc. Une petite expérience amusante aussi, c'est qu'on dit souvent que la musique, ça nous permet d'être en synchronie les uns avec les autres. Et évidemment, les musiciens, directement, ils sont amenés à être en synchronie puisqu'ils doivent jouer ensemble. Quand on demande à deux chanteuses d'essayer de chanter ensemble, et qu'on enregistre leur cerveau, là aussi, avec une technique portable. Parce que ce n'est pas simple d'avoir deux IRM côte à côte, hein, pour enregistrer simultanément donc le cerveau donc de deux personnes. Il n'y a pas beaucoup de centres de recherche qui bénéficient de deux IRM côte à côte. Donc enregistrer de manière simultanée l'activité du cerveau de deux participants. Quand les chanteuses, en fait... chantent, mais qu'elles ne peuvent pas se voir. C'est-à-dire qu'il y a un paravent qui les empêche de se voir. Bon, elles arrivent à être un peu quand même ensemble. Hein. Mais quand on enlève le paravent et qu'on regarde en fait comment fluctue l'activité cérébrale des deux chanteuses, en se regardant, évidemment, elles ont la possibilité d'être parfaitement synchrones. Et on voit en fait que l'activité cérébrale des deux chanteuses se superpose complètement. Autrement dit, il y a un vrai phénomène de synchronisation cérébrale entre les deux chanteuses. Et entre les musiciens d'un orchestre, il y a, évidemment, ça dépend de l'instrument que vous jouez, mais entre tous les violons, il y a un vrai phénomène de synchronisation cérébrale, comme il y a un vrai phénomène de synchronisation cérébrale entre le spectateur et puis le musicien qu'il est en train de regarder. Ça peut être aussi un danseur, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui change dans le cerveau de quelqu'un qui apprend la musique ? On a montré, nous, dans différentes études, qu'est-ce que vous attendez comme hypothèse, qu'est-ce que vous avez comme hypothèse, c'est-à-dire je travaille la musique, hein, je suis gamin, j'apprends la musique, qu'est-ce qui va changer dans mon cerveau en termes d'architecture ? On se dit les régions auditives, parce que évidemment c'est un effort donc de discrimination, je dois faire attention au son. Oui, bien sûr. Les régions motrices, j'en ai parlé, parce que je dois maîtriser un instrument dont je travaille ma motricité fine. C'est vrai aussi chez les chanteurs, je l'ai évoqué. Et puis, il y a d'autres régions du cerveau qu'on n'avait pas imaginées qui bougeraient aussi vite. Alors, ce que vous voyez là, en fait, c'est chaque barre représente un échantillon de population, des gens qui n'ont jamais fait de musique, qui en ont fait 1, 4 ans, 6 à 8 ans, et 6 à 10 ans, pardon, et au-delà, en fin de compte, de 10 ans. Et on voit aussi qu'il y a des régions cérébrales qui vont modifier leur architecture, ça veut dire quoi ? Avec une densité de neurones, une densité de substances blanches, etc., qui se modifient, mais qui changent des fois pas forcément dès le début des apprentissages. Hein, il y a des, en fait, c'est pas linéaire. C'est-à-dire que la relation entre les modifications de l'architecture cérébrale et votre apprentissage, eh bien, se fait dans certaines régions au tout début de l'apprentissage, puis dans d'autres régions plus tardivement. Ça dépend de ce que vous êtes en train de travailler comme mécanisme, évidemment. Ce que on montre dans nos travaux, qui nous a beaucoup intéressés, et on était parmi les premiers donc à montrer ce résultat, c'est que sur l'ensemble du cerveau, chez les musiciens, il y a une région du cerveau qui subit en fin de compte aussi des effets très très importants en fin de compte de neuroplasticité, ce sont les hippocampes du cerveau. Les hippocampes du cerveau, vous avez tous entendu le mot hein, des hippocampes, vous voyez ici leur forme en transparence, hein, une forme un petit peu alambiquée là, qui pourrait faire penser à l'animal marin, et l'hippocampe, d'où le nom. Et ce qu'on a repéré, c'est que effectivement, on avait dans ces régions que l'on considère comme des régions d'entrée et de sortie de la mémoire, des régions très importantes pour l'encodage et la récupération des informations, notamment en mémoire associative, eh bien, une densité de neurones augmentée chez les musiciens. Alors, on n'était pas les premiers à montrer que l'hippocampe pouvait être modifié, la taille de l'hippocampe, le nombre de neurones dans l'hippocampe pouvait être modifié avec des effets d'expertise ou d'apprentissage. Le premier résultat qui avait été trouvé dans la littérature de neurosciences cognitives, c'était pas du tout avec des musiciens, c'était avec les chauffeurs de taxi londoniens dans les années 92, au début des années 90, qui avaient montré que les chauffeurs de taxi londoniens de l'époque, ils n'avaient pas encore le GPS, ils avaient des plus gros hippocampes. Pourquoi ? Parce que à l'époque, ces chauffeurs de taxi, ils devaient se fier à leur mémoire spatiale pour apprendre tous les trajets, se repérer dans la ville. Hein. Donc, et ben, ils apprenaient par des cartes, et puis après, ben, ils avaient la représentation mentale, en fin de compte, de la ville dans leur cerveau. Et les régions hippocampiques, on le sait par les travaux chez l'animal, ce sont des régions très très importantes dans la mémoire spatiale. Ce sont les premières régions qu'on voit modifiées, stimulées chez des souris ou des rats à qui on fait faire des tâches de labyrinthe, d'apprentissage de labyrinthe. Chose aussi intéressante, c'est que, en fait, ces musiciens, non seulement ils ont, on va dire, des plus gros hippocampes, on va dire ça comme ça, mais ils ont aussi une efficacité de la mémoire qui est plus forte. Et c'est-à-dire qu'ils vont avoir une capacité de contrôler ce qu'ils encodent et ce qu'ils récupèrent avec plus d'efficacité. Ce n'est pas qu'ils ont une plus grande mémoire dans l'absolu, mais c'est qu'ils font travailler leur mémoire avec plus de spécificité et d'efficacité. Ils ont un meilleur contrôle de leur mémoire. Alors ça, on va le retrouver aussi chez les musiciens les plus âgés. Je vais en parler dans un instant, en faisant un petit détour justement par cette question. Alors, chez les jeunes, on voit... Là, je n'avais pas le temps de reprendre aussi ce qu'on voit chez les enfants. Si vous avez des questions, vous pourrez revenir. Donc, les pratiques artistiques et la musique en particulier, est-ce que ça a un impact sur la qualité du vieillissement et le vieillissement cérébral ? Alors déjà, si on pose la question de savoir si les musiciens vieillissent mieux, ça dépend de quel musicien on parle. Parce que évidemment, on a beau être musicien, on peut avoir aussi des modes de vie particuliers. Hein. Et puis, l'autre question qui est extrêmement intéressante et qui est là, qui a donné lieu à des travaux beaucoup plus récents, c'est que si on se met à faire de la musique ou à apprendre la musique sur le tard, est-ce qu'on en a les mêmes bénéfices ? Alors, je réponds tout de suite à cette question-là. Il n'y avait quasiment aucune étude de réaliser sur cette question, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et d'un point de vue cognitif chez les personnes qui font de la musique sur le tard. On avait essayé de faire financer donc un travail donc de suivi en neuroimagerie de sujets de plus de 60 ans qui seraient mis à prendre. Alors nous, on voulait faire apprendre des personnes de plus de 60 ans, on voulait leur faire apprendre la guitare manouche, le jazz manouche. Ça aurait été rigolo. Bon, on n'a pas réussi à obtenir les financements. Parce qu'à chaque fois, en fin de compte, ça passait pas parce qu'on nous disait « Oh bah oui, mais enfin bon, il y a des questions cliniques peut-être plus urgentes que ça. » J'en dis ce qu'on vient pas. Bon, et puis c'est un peu fondamental. Bon, voilà, c'est pas forcément le plus urgent à financer. Les collègues suisses et allemands ont réussi, en fin de compte, à financer cette étude-là en se mettant ensemble. Pas de bol pour eux, ils ont démarré leur étude au moment du Covid. Bref, ils ont pris un peu de retard. Mais il y a des premiers résultats qui sortent et ils ont proposé des leçons de piano à des personnes de 60 ans et plus qui n'avaient jamais fait de musique et de piano de leur vie. Et ils montrent effectivement qu'il y a des effets de neuroplasticité dans le cerveau de ces personnes. Alors c'est pas aussi spectaculaire que ce qu'on observe chez des enfants parce qu'on a un cerveau évidemment qui est moins plastique donc à l'âge de 60 ans et plus que chez un enfant de 4 ans un enfant de 7 ans. Mais il y a quand même en fin de compte, des effets de neuroplasticité, d'augmentation de l'épaisseur corticale, de la densité de substances blanches en particulier, hein, les fibres de connectivité hein, qui se renforcent. Donc, après, ça ne veut pas dire qu'on peut parier sur le fait que ces personnes vont mieux vieillir. Est-ce que ça va avoir un impact sur le vieillissement ? C'est pas clair. Alors, on a fait une étude sans une neuroimagerie comparant les performances en mémoire et sur d'autres tests cognitifs chez des personnes qui ont une pratique musicale donc régulière, jeunes et moins jeunes, donc c'est tout au long de la vie, à des personnes qui n'ont pas du tout de pratique artistique ou musicale, groupe contrôle, à un autre groupe contrôle qui était très intéressant pour nous, ce sont des acteurs. Des acteurs de théâtre, c'est-à-dire des personnes qui ont fait du théâtre tout au long de leur vie de manière régulière et qui ont appris régulièrement des textes nouveaux, etc. Donc pour nous, une très bonne population contrôle expert à côté des musiciens. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, pour les acteurs et les musiciens les plus âgés, on voit effectivement que par rapport aux normes des tests qu'on leur a fait passer, ils ont des performances qui sont supérieures au sujet contrôle, c'est-à-dire à la population générale. Donc, ils ont une meilleure mémoire et surtout, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ont une meilleure efficacité de la mémoire. Est-ce que c'est pareil pour les acteurs et pour les musiciens ? Les acteurs, on n'est pas surpris par le fait qu'ils sont particulièrement bons, hein, ils performent particulièrement bien sur tout ce qui est mémoire verbale, c'est-à-dire tout ce qui est mémoire utilisant le langage. Les musiciens, un peu moins. Mais par contre, les musiciens, ils ont un impact sur un certain nombre d'index de fonctions dites de contrôle et fonctions exécutives, etc., que n'ont pas forcément les acteurs. Parce qu'ils ont un effet plus global, en fait, sur différents types de mémoire et différents types de mécanismes liées aux fonctions de contrôle, hein, fonctions liées donc aux régions préfrontales notamment. Donc ça, c'est un aspect intéressant. Alors si je fais un premier point, je dirais de résumé, et que je me pose la question maintenant, mais d'accord, ça c'est très, très bien, la pratique musicale, ok, on a des données. Mais l'effet de la simple écoute de la musique. Est-ce qu'on a des données et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors, plus compliqué la simple écoute de la musique. La métaphore que je prends, c'est celle souvent du jogger qui écoute sa musique pour s'entraîner lorsqu'il fait de la course à pied. Qu'est-ce qu'il attend, le jogger, quand il écoute de la musique ? Il attend, effectivement, le fait d'avoir un effet de synchronisation physiologique, c'est-à-dire il va mettre une musique avec un tempo qui va lui permettre de, en fait, de soutenir la vitesse donc du rythme de son pas. Hein, et ça va être vraiment une aide. Et puis l'autre côté, eh bien, il attend un effet bien-être, c'est-à-dire qu'il va écouter de la musique, il va détourner son attention de la douleur qui va s'accumuler, hein, donc de son effort. Alors, bon, ça a un effet un peu hypnothérapeutique, hein, thérapeutique. Et puis, il y a effectivement le fait que, en écoutant une musique qu'il aime, il va faire fonctionner son circuit de la récompense et libérer de la dopamine, libérer de l'ocytocine, de différents types de neurotransmetteurs, notamment des neurotransmetteurs pour certains qui sont des dérivés aux opiacés et dont on peut comprendre qu'ils aient un effet sur la diminution de la douleur ressentie, de la douleur perçue. Donc, en fait, il y a, là, je l'ai résumé en deux effets, mais en fait, on peut dire qu'il y a trois effets. Hein. Il y a le fait de se synchroniser d'un point de vue physiologique. Je vais y revenir aussi parce que c'est un effet important. Le fait d'avoir du plaisir et de détourner son attention de la douleur. Donc ça, ce sont des éléments, des mécanismes qui vont être utilisés pour utiliser la musique, hein, pour employer la musique dans des contextes pathologiques, comme la maladie de Parkinson, l'aphasie ou la dyslexie, où là, c'est plus l'aspect entraînement moteur qui est utilisé. Hein, les personnes qui ont un AVC et qui ont une aphasie dite motrice, c'est-à-dire ils n'arrivent plus à articuler les mots, à produire les mots, ils les comprennent, hein, ils les décodent bien, mais ils n'arrivent plus, en fin de compte, à répéter des phrases, à articuler les mots. Les orthophonistes connaissent bien ça, c'est-à-dire qu'elles ont effectivement une approche qui s'appelle la mélodithérapie rythmée. Si vous faites répéter à ces patients des mots, des phrases en utilisant un rythme, une mélodie, en les faisant chanter, hein, eh bien, on voit qu'on a une forme de désinhibition, hein, de la parole et du langage. Comme de la même manière, vous avez tous entendu parler du fait que pour rééduquer le bégaiement, hein, on demandait aux gens de chanter. Donc pourquoi ça marche ? Parce qu'on voit bien, en fait, entre nos régions auditives et les régions qui vont permettre l'articulation donc, du langage, on a des boucles en fait, de connectivité qui vont être entraînées par cet effet donc de pulsation, cet effet moteur. On va avoir un pulse qui va être envoyé qui va aider à la désinhibition du langage. Pareil pour les patients parkinsoniens, hein, qui sont des patients qui ont du mal à initier la marche et qui marchent à petits pas, hein, du mal à remettre un pied devant l'autre. Et si vous leur faites écouter une musique un peu rythmée, une musique de marche, hein, c'est le cas de le dire, eh bien, à ce moment-là, s'ils se synchronisent dessus, d'un seul coup, et c'est assez spectaculaire quand on le voit en vidéo, d'un seul coup, ce sont des patients qui retrouvent une marche fluide. Donc ça, c'est l'effet d'entraînement physiologique. Puis de l'autre côté, l'effet, récompense, dopaminergique, il est attendu, hein, donc, dans tout ce qui est approche de la musicothérapie dans certaines pathologies, où on va travailler sur la diminution du stress, de la dépression, l'augmentation du bien-être, etc. Donc, en fait, on a souvent opposé différentes hypothèses sur les bénéfices de la musique dans notre cerveau. On a souvent opposé une hypothèse un peu émotionnelle. L'hypothèse émotionnelle, c'est plutôt la libération d'endorphines, de dopamine. On l'a souvent opposé un peu à l'hypothèse d'entraînement moteur. En fait, ces deux mécanismes, ils fonctionnent de concert. Ils fonctionnent tellement ensemble que, après, la question c'est, oui, mais est-ce que ça fonctionne chez tout le monde ? Avec n'importe quelle musique, quelles sont les conditions pour que ça fonctionne ? Cet effet d'entraînement là dont vous parlez, on n'est pas musicien, est-ce que ça fonctionne quand même, etc., etc. Il y a plein de questions, évidemment, intéressantes. Cet effet de synchronisation est physiologique, il fonctionne très très bien, et on l'observe très clairement. Hein, vous voyez ici, il y a deux courbes, entre guillemets. En haut, donc la tension artérielle, ce n'est pas le rythme cardiaque, mais la tension artérielle mesurée d'un groupe qui n'entend pas de musique,
Et ici, c'est la tension artérielle prise pour un groupe qui entend la musique. Là, pendant tout le temps que c'est en vert, il y a la musique qui est diffusée. Une musique qui va, dont le tempo va ralentir, qui va être de plus en plus calme, qui est une musique classiquement qu'on appelle de relaxation, hein, voilà, qui est structurée pour produire un effet donc de synchronisation physiologique qui amène à une ventilation pulmonaire plus lente. Vous respirez plus lentement, vous avez un rythme cardiaque un peu plus lent et vous avez aussi une tension artérielle qui diminue. Ce phénomène de synchronisation, il fonctionne très très bien, c'est le principe de la relaxation musicale. Cette courbe que vous voyez là, hein, vous voyez qu'elle est très très claire, hein, elle a été obtenue chez des rats. Chez des rats hypertendus. C'est des souches de rats génétiques, voilà. C'est des rats, ils font de l'hypertension naturelle. Il faut se méfier d'ailleurs de ne pas trop leur faire peur parce qu'ils pourraient faire une crise cardiaque. Ouais. Donc, des rats hypertendus. Et on voit très très clairement que ces rats, qui n'ont pas de culture musicale, on les a élevés, on sait dans quelles conditions, eh bien, ils ont ce phénomène naturel de synchronisation avec les patterns, en fin de compte, rythmiques de la musique, qui vont décélérer, qui vont être de plus en plus lents, et leur rythme de respiration, leur rythme cardiaque, la tension artérielle diminue. Vous obtenez ça chez des souris, des rats, des mammifères. C'est aujourd'hui très étudié, hein, l'effet de la musique, de l'écoute de la musique. Alors, j'ose pas dire l'écoute de la musique, parce qu'ils n'écoutent pas la musique comme nous on l'écoute, bien évidemment. Ils sont exposés à la musique. Pourquoi il y a des chercheurs qui ont une idée un petit peu zarbi, là, de faire écouter de la musique à des animaux, comme des souris ou des rats, en laboratoire? Ben parce qu'il y avait beaucoup de travaux sur l'impact sur le cerveau de ce qu'on appelait l'enrichissement du milieu, avec des cages plus spacieuses, des interactions sociales, le fait qu'il y ait des petits trous pour s'amuser, etc., l'effet, en fin de compte, de l'activité physique. Et puis, il y a des chercheurs qui se sont dit, ben, c'est très très bien, l'aspect visuel, on met plus de couleurs, etc., mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi et voir s'il n'y a pas des phénomènes d'enrichissement sonore qui peuvent être produits. Donc, si vous aviez jamais visité de lieux d'élevage d'animaux de laboratoire, vous seriez étonné de savoir que les laborantins qui s'occupent des animaux, c'est pas rare qu'ils mettent la radio ou qu'ils écoutent de la musique. Donc il y a de la musique souvent en fait dans les laboratoires. Et puis certains avaient dit, on dirait que ça les intéresse. Bon, ça va bien, écoute. On sait bien que t'aimes bien Hotel California, mais enfin quand même, lui, le petit rat là. Mais il y a un vrai effet, en fin de compte, qui a été obtenu de synchronisation physiologique chez les animaux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux sur l'intérêt que ça peut avoir pour diminuer le stress dans, évidemment, les élevages. Bon, si on pouvait diminuer le stress autrement qu'en mettant simplement de la musique, ça serait bien. Mais ça peut contribuer, effectivement. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Alors, évidemment, est-ce que c'est la musique? Alors, on va voir qu'en fait, on a plein de travaux chez l'animal. Il y a plein de travaux qui montrent des effets positifs, et notamment, quelque chose qui était assez inattendu, c'est que quand on expose ces animaux à de la musique, par rapport à d'autres types de stimulation sonore non musicale, j'insiste, c'est-à-dire quoi? Des sons aléatoires, du bruit blanc. Alors les bruits blancs, ça c'est du bruit blanc. Ça, en plus ça marche, vous voyez. C'est les vertus du bruit blanc. Donc le bruit blanc, c'est, là, il y a toutes les fréquences, machin. Le bruit rose, c'est quoi? C'est le bruit blanc modulé. Ça marche un peu moins bien. Donc voilà, ben, si on utilise des sons comme ça, du silence, comparativement au silence, etc., ben, on n'a pas le même effet. Ici, un résultat. Alors, ce que vous voyez, ce qui est mis en fluorescence, là, ce qui est d'autant plus vert, hein, vert fluo, eh bien, c'est le nombre de nouveaux neurones qui ont été créés dans l'hippocampe de ces animaux qui ont été exposés à la musique. Donc, vous avez trois groupes. Un groupe qui a entendu de la musique, un groupe qui a entendu de la musique à l'envers, qui était déstructuré, et un groupe qui était dans le silence. Et en fait, On voit très clairement que dans le gyrus denté de l'hippocampe de ces animaux, on a une augmentation du nombre de créations de nouveaux neurones. On a de la neurogénèse. Alors pourquoi la neurogénèse est stimulée, en fin de compte, par une stimulation musicale ? L'hypothèse, c'est évidemment qu'on a un effet d'entraînement. Le cerveau est intéressé par tout ce qui est rythmique, par tout ce qui est, en fin de compte, patterns, répétés, etc. Votre cerveau, il vous sert à quoi ? Ben, plein de choses, bien sûr, mais en fait, des premiers mécanismes qui vous est utile pour votre cerveau, c'est d'être capable de dire ça. C'est connu, ça c'est pas connu. Hein. Donc ça c'est déjà entendu, ça pas déjà entendu. Donc ça c'est important. Donc du coup, pour votre cerveau, être capable de repérer des choses qui se répètent, c'est super important. Et notre cerveau, il aime bien. Il aime bien jouer effectivement. En fait, quand je dis notre cerveau, c'est-à-dire tous les systèmes nerveux aiment bien repérer les récurrences, les choses qui se répètent, etc. C'est très intéressant et stimulant pour eux. Ce qui amène un certain philosophe à dire que si, en fin de compte, l'être humain a développé la musique, c'est parce que la musique est un phénomène qui est très plaisant pour le cerveau parce que notre cerveau fonctionne comme la musique fonctionne. C'est-à-dire par des effets, en fin de compte, de répétition, de structure répétée. Allez, il va falloir que j'arrive vers la fin de mon histoire. Alors, il y a plein de travaux qu'on a pu faire qui montrent que tous ces mécanismes dont je vous ai parlé, ils sont très intéressants à mobiliser pour prendre en charge les patients qui ont des maladies de la mémoire, etc. Juste pour synthétiser, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces patients ? Plein de choses. Je vous donne deux exemples de profils de patients avec une maladie d'Alzheimer, soit débutante, soit déjà bien installée. En fait, à gauche, donc plutôt une patiente qui serait avec des premiers troubles de la maladie d'Alzheimer. Elle a plutôt, en fin de compte, elle est très consciente d'avoir des petites difficultés, etc. Mais la maladie n'est pas encore majeure. On peut faire plein de choses, justement, pour aider, grâce à la musique, à stimuler son cerveau, à lutter contre l'avancée de la maladie, continuer à garder effectivement des relations sociales en allant dans une chorale, continuer effectivement à stimuler son cerveau de plein de manières suivantes et par des activités musicales diverses. Je ne donne pas les détails, mais on peut faire plein de choses. Mais c'est vrai aussi pour les patients qui sont à un stade très avancé de la maladie, ou qu'est-ce que ça veut dire stade très avancé ? Ce sont des patients qui ne sont plus conscients de leur état, de leur trouble de mémoire, et en plus qui deviennent de plus en plus apathiques, c'est-à-dire que ils vont passer la journée à regarder leur godasse, à avoir la tête pliée sur leurs chaussures, si on ne vient pas, en fin de compte, vers eux, les stimuler, essayer de leur parler, et même essayer de leur parler et de capter leur regard, ça devient de plus en plus compliqué. Là, la musique, elle a un effet aussi assez miraculeux, parce que si on trouve la bonne musique qui a une résonance particulière d'un point de vue de l'autobiographie de ce patient, on peut voir des patients qui s'éveillent complètement, qui se redressent, qui écarquillent les yeux, qui se mettent à chantonner, et avec lesquels on va pouvoir de nouveau arriver à communiquer. Et je dirais, effet bénéfique extrême pour un coût minime, pour le coup. Hein. Donc c'est extrêmement intéressant, et tout au long de la maladie, on peut évidemment s'occuper de ses patients. Donc, vous voyez que les applications elles peuvent être multiples, j'insiste pas là-dessus. Pourquoi ? La musique, elle est intéressante. Elle est intéressante parce que si on la pratique, on a de multiples effets. Hein, on a souvent dit qu'en fait, la pratique de la musique avait autant d'impact parce que c'était une sorte d'effet millefeuille. En cumulé, en fin de compte, l'effet perceptif, sensoriel, moteur, mnésique, émotionnel, il y a même des aspects visuels, exécutifs. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'apprentissage de la musique chez les enfants ? C'est aussi, pas seulement qu'ils apprennent la musique, le solfège, etc., c'est qu'ils apprennent à faire de la musique ensemble et que ça va augmenter leur capacité d'empathie, ça va augmenter leur capacité de théorie de l'esprit, ça va augmenter leur capacité à se mettre à la place de l'autre, à penser en fin de compte qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon voisin là. Faut que je sois en même temps ensemble avec lui. Et en plus, il ressent des choses un petit peu comme moi je les ressens. Donc c'est assez intéressant. Mais vous allez me poser des questions. Si vous souhaitez effectivement en savoir plus sur certains aspects, parce que je ne voudrais pas vous assommer et être trop long. Et donc, je vais m'arrêter là en vous donnant quelques références biblio. Il y a, si vous voulez faire le point, je dirais avec un seul ouvrage récent qui est paru en mars 2024, donc c'est « Musique, science et santé ». Musique, science et santé, donc co-dirigée par Gérard Mic et Emmanuel Bigan. On est une vingtaine d'intervenants à avoir fait des chapitres dans cet ouvrage. Moi, j'en ai fait trois. Voilà. Et je trouve que ça fait là une bonne synthèse sur ce qu'on peut dire de comment on peut utiliser la musique dans un contexte de soins. Et quelles sont les preuves scientifiques, les éléments que l'on a aujourd'hui et quels sont, en fin de compte, encore les éléments qu'on aimerait bien avoir pour aller plus loin. Voilà, et merci beaucoup de votre écoute.